Vous allez écouter l'émission Fréquence Geek présentée par Bastien sur RTVFM.
Et salut à tous, chers auditeurs, chères auditrices, ici Bastien qui vous parle pour cette nouvelle émission du Fréquence Geek. Au programme aujourd'hui, je vais vous parler du ray tracing, la nouvelle technologie qui sera embarquée pour la PlayStation 5. Je vous ferai part de ma critique concernant Avengers Endgame et ensuite on continuera avec les sorties en vrac et les événements à venir dont le tournoi de sabre laser qui aura lieu sur Paris. Mais tout de suite, commençons avec le commencement. Déjà pour commencer, le ray tracing c'est quoi me diriez-vous? Eh bien comme la plupart des gamers que vous êtes plus ou moins le savent, durant le mois dernier, plus précisément le mois d'avril, Sony fit passer une annonce importante sur l'avancée de la PlayStation 5, qui sera d'ailleurs prévue aux alentours de 2020. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça mériterait que je parle du ray tracing pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est. Donc, pour ce mois-ci, je vais tâcher de vous expliquer les fonctionnements de la nouvelle technologie qui sera, comme prévu, embarquée dans la PlayStation 5, comment ça marche et les domaines qu'elle exploite. Alors déjà, commençons par le commencement. Le ray tracing, ou le lancer de rayons en français, est une technique de calcul d'optique par ordinateur, utilisée dans le rendu des images de synthèse ou pour étudier les systèmes optiques. Cette technologie est représentée actuellement comme la prochaine étape du jeu vidéo sur console à franchir. Et oui, le ray tracing fut présenté pour la première fois en 1968 par le chercheur Arthur Appel d'IBM, sous le nom de raycasting, qui était jusque-là l'implémentation la plus basique possible de ce principe. Pour vous résumer clairement les choses, vous devez imaginer des rayons lumineux, à très faible densité colorimétrique, à partir duquel la caméra va chercher à atteindre chaque pixel afin de faire arrêter les rayons dessus dans le seul but d'évaluer en détail la forme de l'objet formé par le pixel ciblé. Cette méthodologie consiste donc à simuler le parcours inverse de la lumière en y calculant les effets et les directions émises par les rayons depuis la caméra et cela jusqu'au plan ciblé. Alors que dans la réalité, c'est la lumière qui va de la scène vers l'œil. Le raycasting est également bien connu de certains studios d'animation tels que Pixar ou des effets spéciaux hollywoodiens, car ce procédé a un avantage relativement supérieur sur le rendu scanline et plus particulièrement sur toutes les surfaces courbes en raison du traitement fourni par projection laser, donnant ainsi à n'importe quelle machine une vitesse et une précision du traitement de l'image au moins 4 fois supérieure à la vitesse normale voire plus. Il est bon à noter que le rendu des scanline et autres algorithmes graphiques apparentés ont toujours beaucoup de mal à être pris en compte notamment sur les effets de lumière et même sur les dernières consoles actuelles. Ces facteurs restent encore aujourd'hui à devoir être améliorés de nos jours même sur les générations actuelles de consoles, c'est-à-dire la Switch, la Xbox 360 et l'actuelle PS4. Car dans la vie réelle, la lumière émise par le soleil ou autre source d'éclairage rebondit sur les objets, se diffracte dans plusieurs directions, se reflète dans l'eau ou les surfaces métalliques, et ce avant d'arriver devant nos yeux. Tout cela cause des jeux d'ombre, d'effets et de lumière qui affectent également la couleur perçue par les éléments du décor. Comme par exemple, une ombre n'est pas forcément un rendu composé uniquement de noir. Mais le raycasting des années 90 est simpliste. Il ne prend pas en compte les rayons diffractés plusieurs fois, rebondissant d'un objet à l'autre. Et bien d'autres encore. Ce qui, du fait, ne représentait jusqu'à là qu'un intérêt vraiment très limité par les effets de lumière, le réalisme visuel et le rendu virtuel. D'après les premiers travaux d'Arthur Appel sur le raycasting en 1968, les rayons secondaires seront pour la première fois pris en compte en 1979 par Turner Whitehead, qui travaille aujourd'hui dans la division de recherche de Nvidia et qui propose d'appliquer l'algorithme du raycasting de manière récursive, en prenant en compte trois formes de rayons émis à chaque fois par la lumière dès qu'elle rentre en contact avec un objet. La réflexion, la réfraction et l'ombre. La réflexion est ce qui se passe dans un miroir ou dans une vitre, tandis que la réfraction cause des halos de lumière plus diffus, et l'ombre est considérée comme un rayon noir à part entière dans le spectre colorimétrique. Au terme de raycasting, ou plutôt maintenant ce serait plus appelé ray tracing, tel qu'employé de nos jours, désigne cette approche des rayons de lumière secondaires, ou plutôt devrais-je dire de rayons additionnels. Car c'est là que le bas blesse, calculer des rayons additionnels est lent, très lent. Si lent que pendant longtemps, même les productions hollywoodiennes étaient réticentes à l'idée d'employer cette technique pour leurs images de synthèse correctement et maintenant. C'est vous dire, même Pixar, un des pionniers historiques de l'animation 3D, n'a d'ailleurs adopté le ray tracing que depuis 2013, soit depuis 7 ans à peine. Et oui, dans un environnement entièrement créé par ordinateur, l'effort de calcul demandé est tout simplement trop important, pour ce qui était l'époque où le raycasting venait tout juste de sortir. La preuve étant que la réalisation du film Monster University a ainsi nécessité d'allouer 20 gigas de RAM au traitement de chaque image, sachant qu'il y a 24 images par seconde dans un film d'animation, ce qui donne une somme de RAM totalitaire de toute la durée globale du film, tout juste bonne à vous donner une sacrée migraine, tellement ce serait pénible à calculer. Si tel est le cas, dans les studios dotés de supercalculateurs, qui peuvent se permettre de passer des heures, voire des jours, à faire le rendu d'une scène, il est facilement compréhensible que de tels moyens aient longtemps été inenvisageables en temps réel sur un simple PC. Exemple typiquement bien connu du genre auprès des gamers les plus calés sur le sujet fut en 2008, quand Intel a démontré l'utilisation du ray tracing en temps réel sur un jeu de tir Enemy Territory Quake Wars. Celui-ci tournait à une résolution de 180 pixels par 720 pixels. Et la fréquence d'image de rafraîchissement saccadée de 15 à 20 images par seconde sur une configuration dotée d'un microprocesseur de 16 cœurs. Oui, même avec 16 cœurs, il était impossible à un PC de haute gamme de parvenir à faire tourner un jeu correctement à cette époque, ce qui amena Quake Wars Ray Traced à rester à l'état de projet de recherche et n'en a donc jamais été commercialisé par la suite. Et maintenant avec tout ça, où est-ce qu'on en est, me direz-vous ? Eh bien, vu que Sony va nous annoncer que la PS5, en plus d'être rétro-compatible PS4, carburera bel et bien au ray tracing, j'ose me demander si une telle technologie embarquée dans la console nous fournira un prix d'achat envisageable à 500€ comme le théorisent certains sites spécialisés du jeu vidéo. L'avancement de la PS5 sera donc une affaire à suivre supplémentaire cette année sur le Fréquence Geek. Et maintenant, je vais vous laisser en compagnie d'une petite pause musicale et je vous retrouve pour la suite de notre émission avec ma critique sur Avengers Endgame dans la rubrique manga, comics, films et animation. This is not just any kind of night. You know what it is? It's reggae night. With a new funky rhyme from Beat System. Give you more on the floor if you really want to say yeah. Then you know what to do. Reggae music, I know what you need and we know how to use it. Keep on dancing, hold on tight. Ladies and gentlemen, yeah. Reggae night.
Reggae night. We come together when the feeling's right.
Drop it.
Et nous voici de retour pour la suite de cette émission du Fréquence Geek. C'est toujours Bastien qui vous parle, mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Et maintenant, je vais vous parler de ma critique sur Avengers Endgame dans notre rubrique manga, comics, films et animation. Alors déjà sorti en salle depuis le 24 avril 2019, Avengers Endgame, ou plutôt Avengers la phase finale au Québec, est un film américain réalisé par Anthony et Joe Russo, sorti en 2019. Et oui, étant fan de la série Marvel, il était donc temps pour moi de vous donner mon avis critique sur le grand final du Marvel Cinematic Universe. Rapidement, le film nous remet sur le devant de la scène avec l'équipe des super-héros comics Marvel habituels, les Avengers. Il s'agit donc du 22e film de l'univers cinématographique Marvel, débuté en 2008, et du 10e et avant-dernier de la phase 3. La phase qui devrait d'ailleurs se finir dans le prochain film Spider-Man, mais ça, je vous en reparlerai pour une autre fois. Film d'une durée globale de 3 heures avec une composition scénaristique disposée en 3 parties, le film nous replonge directement là où Avengers Infinity Wars nous avait laissé sur notre fin. Cependant, avant de continuer, je me dois de m'excuser d'avance pour les spoilers que je risque de lâcher, raison qu'il me sera difficile de vous donner un avis global sans trop vous gâcher la surprise du film, pour ceux qui n'ont pas encore vu Endgame. Déjà, le film est assez axé sur le fanservice. En dépit d'avoir pu nous éviter un semblant de surenchère nostalgique, car l'ambiance s'y permet quelque peu, preuve que le côté fanservice semble d'ailleurs plutôt bien dosé malgré les blagues foireuses, voire complètement inutiles de certains passages, et le retour désespérant des traitements de Hulk et de Thor toujours autant dégueulasses depuis Thor Ragnarok, ce film semble cependant se défendre sur certains points. Toutefois, ce qui m'avait posé principalement problème est d'autant plus concernant le personnage du Capitaine Marvel. La Superwoman du Marvel Universe est la Deus Ex Machina que les scénaristes n'ont pas été en mesure de pouvoir gérer avec, pour seule preuve étant que durant tout le long du film, elle fut mise de côté et en la faisant mettre je ne sais où dans la galaxie juste après l'après-quelle pour ensuite revenir sur la scène finale. Et les problèmes de facilité scénaristique, surtout pour ceux qui ont vu Infinity War ou connaissent assez bien l'univers Marvel, vous le diront mieux que moi. Le niveau de puissance des personnages ne correspond pas du tout à ceux que nous avaient été présentés durant les 21 autres films précédents, bien que voir tout le crossover présent et résolu à se battre reste quelque peu jouissif à regarder. Bien sûr, je dis cela en gardant l'idée que Thanos n'avait pas les gemmes de l'infinité durant cette scène, ce qui rendait la résultante regrettable avec un sens où un duel au sommet entre soit un match retour Hulk versus le titan fou dépourvu du gantelet, soit un Thanos avec 4 pierres d'infinité versus Captain Marvel aurait pu donner un plus gros, mais vraiment un plus gros plus sur la bataille finale déjà pourtant génialissime sur la forme mais truquée sur le fond pour ce que je viens de vous dire précédemment. De plus, bien que la dernière scène du film, aussi dramatique soit-elle et émouvante et aussi bien ressentie, a pu nous donner, on peut sentir que la scène des funérailles est passée bien vite à la trappe en dépit que les dernières paroles morales du film restent cependant un point tout à fait et malgré tout doté d'un très bon sens de la conclusion. Le film possède également certains faux raccords, comme le fait qu'il aura fallu attendre le dernier film pour voir le Captain America manipuler le marteau d'eau de Thor au point de pouvoir balancer des éclairs alors que la foudre du marteau est en fait un pouvoir de Thor lui-même, sachant que Steve Rogers est resté fidèle à ses principes jusqu'au bout, ou presque, le faisant passer du coup pour un bip de service. Pour ceux qui ont vu Le Soldat d'Hiver, vous devrez savoir de quoi je fais allusion, mais bon, passons au film, on n'est plus à sa près niveau macabre. Cela étant principalement dû encore et toujours à cause de certaines facilités scénaristiques qui rendent également certaines relations entre les personnages un peu trop vite expédiées, et bien que le coup du voyage dans le temps donne un rendu des plus intéressants concernant les rencontres entre le passé et le futur, ce qui reste malgré tout un film dont je préfère vous garder le meilleur en guise de surprise, et dont sa conclusion satisfera sans nul doute la plupart d'entre vous. Et au final, Avengers Endgame est sans nul doute un très bon film, même si on aurait espéré avoir beaucoup mieux. Car bien que son scénario s'adresse davantage à tous ceux qui auront suivi le MCU depuis ses débuts avec le premier Iron Man, les jeux des acteurs y restent tout de même excellents et les effets spéciaux y sont tout autant spectaculaires en dépit de certains mauvais traitements scénaristiques dont on aurait bien pu se passer. C'est donc sur cette note de critique que je vais vous laisser en compagnie d'une nouvelle petite pause musicale et je vous retrouverai après pour le sortir en vrac, suivi directement des événements à venir.
Elle écrit sa propre histoire et moi je me perds dans mes rimes. Plus je vois que c'est dur de tourner la page. Plein de flashbacks quand je regarde dans ses yeux. Je vois son reflet dans le miroir. Son regard qui me fixe, j'ai l'impression de lire dans ses yeux. Le temps passé, mon cœur est noir. Je voudrais partir, mais je préfère qu'on fasse tous les deux. Mais laisse-la, elle écrit. Et dans mes oreilles, j'entends ses cris. Et laisse-la, elle écrit. Et dans mon sommeil, j'entends ses crises. Mais laisse-la, elle écrit. Et dans mes oreilles j'entends ses cris. Laisse-la, elle écrit. Et cette fois-ci je la laisse partir. Je sais et qu'au fond c'est provisoire. Mais je peux rien y faire, c'est juste que nos liens sont défaits. Je commence à ne plus rien voir. Pourtant quand je crois son regard, ça me procure le même effet. Et ça recommence trop de soirs. Au fond j'ai l'impression que tout se mane et je nous renferme. Alors j'ai arrêté d'y croire. N'empêche que je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait. Mais laisse-la, elle écrit. Et dans mes oreilles j'entends ses cris. Mais laisse-la, elle écrit. Et dans mon sommeil j'entends ses crises. Mais laisse-la, elle écrit. Et dans mes oreilles j'entends ses cris. Mais laisse-la, elle écrit. Et cette fois-ci je la laisse partir. Cette fois-ci je la laisse enfuir. Oui, elle écrit sa propre histoire sans fin. Tous mes souvenirs sont enfouis. C'est mieux que la laisse en aller tranquillement. Oh, je sens que je respire. Même si elle a baissé dans mon estime. C'est bon de savoir que je respire. Même si elle a baissé dans mon estime. Mais laisse-la, elle écrit. Et dans mes oreilles j'entends ses cris. Mais laisse-la, elle écrit. Et dans mon sommeil j'entends ses crises. Mais laisse-la, elle écrit. Et dans mes oreilles j'entends ses cris. Et laisse-la, elle écrit. Et cette fois-ci je la laisse partir.
Et bon retour parmi nous pour la suite du Fréquence Geek. Ici votre animateur Bastien qui vous parle encore et toujours. Et nous allons maintenant commencer la suite de notre émission avec les sorties en vrac. Alors tout d'abord, je vais vous parler de Sonic Team Racing, Sonic Team Racing qui sera prévu pour tous les supports à venir à partir du 21 mai. Alors il faut savoir que tout d'abord, évidemment, Sonic est un véritable vestige des années 1990. La rivalité entre Mario et le Rickson Blue est d'ailleurs loin d'être éteinte. Parce que même si les deux icônes du jeu vidéo se sont alliées le temps de quelques jeux dédiés aux Jeux Olympiques, leur rivalité a depuis largement dépassé le cadre du jeu vidéo de plateforme, puisqu'avec la série des All-Stars Racing, le hérisson de Sega revient sur le domaine du jeu de course, délirant et convivial avec Sonic Team Racing prévu, donc comme je l'ai dit plus tôt, pour le 21 mai sur Switch, Xbox, PC et PS4. En effet, Sumo Digital s'était déjà lancé dans une expérience audacieuse en permettant aux joueurs solo de contrôler jusqu'à 3 types de véhicules lors d'une même course, et c'est dans ce même jeu de concept qui sera à l'honneur de ce nouveau jeu Sonic. Toutefois, son concept se voulant être plus axé sur le jeu d'équipe, inutile de vous dire que les parties multijoueurs en local ou en ligne se feront sans doute rarement en chacun pour soi. Contrairement à Mario Kart, il s'agit ici de ne pas faire de course dans son coin et de foncer dans la ligne d'arrivée tête baissée sans se soucier du reste. Car les vainqueurs sont désignés par l'ensemble des points marqués et par les membres d'une équipe, et différentes actions permettront aux coéquipiers de se soutenir les uns les autres afin d'optimiser le score global. Le jeu d'équipe sera donc très important à prendre en compte, comme par exemple offrir un objet à un allié pour l'aider à rattraper son retard, ou d'en demander un si l'on est soi-même dans une situation délicate, ou encore d'effectuer un dérapage afin de laisser une trace sur laquelle un allié peut rouler afin de gagner en vitesse. Le prix du lancement et de précommande du jeu est d'environ 30€ jusqu'aux 3 premiers jours de sa sortie, puis passera au prix fixe de 40€ à partir du 27 mai dans tous les points de vente et participantes à l'opération. Rage 2. Rage 2 est un jeu de tir à la première personne co-développé par Avalanche Studio et ID Software et édité par Bethesda Softworks et prévu pour le 14 mai 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Rage 2 se déroule sur Terre dans un monde post-apocalyptique, suite à la chute d'un astéroïde dont seuls 20% de la population n'a rééchappé. Les survivants de cette extinction de masse se sont soit répartis en gangs rivaux et sadiques, ou ils ont rejoint l'autorité, une puissante organisation paramilitaire aux ambitions malveillantes, dirigée par Martin Cross. Toutes ces fractions s'entretuent dans le but de contrôler diverses ressources éparpillées aux quatre coins de la Terre désolée. Le scénario du jeu fait donc suite à Rage premier du nom, prend place 30 années plus tard. Dans cet opus, le joueur va incarner un ranger nommé Walker dans un jeu de tir à la première personne et va pouvoir se déplacer librement dans un monde ouvert partiellement destructible. Le but du joueur étant d'éliminer les ennemis par le biais d'une collection d'armes à feu constituée d'un pistolet, d'un fusil d'assaut, d'un fusil à pompe, d'un boomerang et de grenades. Comme nous sommes également dans la suite de Rage, il sera également possible d'avoir recours à de la nitronite pour utiliser des pouvoirs qui seront des plus pratiques, comme par exemple le dash qui permet au joueur de se propulser vers n'importe quelle destination, le shatter produisant une poussée frontale unidirectionnelle qui catapulte tout élément hors de portée du joueur. Les ennemis trop proches peuvent être d'ailleurs démembrés. Le slam, quant à lui, donne au joueur la possibilité de s'élever dans les airs afin de retomber lourdement au sol, donnant lieu à une onde de choc puissante. Le joueur sera également confronté à des combats motorisés dignes d'un jeu à la Mad Max. En plus d'être dépourvu d'un multijoueur classique, mais qui contiendra malgré tout des fonctionnalités sociales, en plus de rester jouable même une fois le jeu atteint. Le joueur sera également confronté à des combats motorisés dignes d'un jeu à la Mad Max, en plus d'être dépourvu d'un multijoueur classique, mais contenant malgré tout des fonctionnalités sociales, en plus de rester jouable même une fois la fin du jeu atteinte. Son prix de lancement et de précommande sera effectué à environ entre 50 et 60 euros jusqu'aux 3 premiers jours de sa sortie, puis sera entre 60 et 70 euros au prix fixe à partir du 17 mai 2019. Ensuite, la sortie du tome 7 de Dragon Ball Super. Alors la suite du manga Dragon Ball Super, elle-même suite de la série Dragon Ball originale, est de retour en force depuis le 2 mai de ce mois-ci. Glénat avait déjà annoncé la date de sortie du tome 7 de Dragon Ball pour ce jour-ci depuis le début du mois de janvier 2019, et le voici enfin sorti comme convenu par la maison d'édition au prix moyen compris entre 6 et 7 euros, dont tous les points de vente participants. Le tome 7, qui a pour titre « Début du tournoi pour la survie de l'univers », inclut les chapitres 33 à 36 pour un total de 192 pages, marquant les débuts du tournoi du pouvoir. Le manga contient quelques nouvelles illustrations de Toyotaro, ainsi que certaines corrections de Toriyama sur le travail de Toyotaro en fin de lecture de livre. Et enfin, la sortie du tome 15 de One Punch Man, disponible en point de vente participant depuis le 5 mai 2019 au prix moyen de 7 euros. Le 12 ex machina du shonen fringué en jaune avec la boule à zéro revient dans ce 15e volet pour tout régler comme à son habitude en un seul coup de poing. Même après l'attaque des monstres et le tournoi d'arts martiaux, Saitama est trop fort et continue à s'ennuyer. King, de son côté, commence alors à lui exposer sa vision de la vie en tant que héros. Mais au même moment, des messagers de l'association des monstres se présentent devant Sonic le Foudroyant. Sonic va-t-il rejoindre le camp des monstres afin d'espérer pouvoir terrasser Saitama? Pour savoir, je vous conseille vivement d'y jeter un coup d'œil. Et maintenant, nous allons passer à la rubrique événements. Alors déjà, pour commencer, je vais vous parler du Open France Cyber Laser 2019. Ou CyberTor. Avis à tous les inconditionnels de Star Wars, du 31 mai au 2 juin 2019, au stade Charles T de Paris se déroulera le tournoi international de sabre laser 2019. Compétition sportive de haute volée, convention pop culture ultra immersive, cette nouvelle édition s'annonce d'ores et déjà épique depuis son intégration officielle en tant que discipline sportive par le comité des sports. L'année dernière, le tournoi de 2018 fut composé de 1800 personnes sur 2 jours avec plus de 70 combattants de toutes nationalités confondues. Pour ce qui est des informations sur le tournoi, nous avons actuellement en compte un nombre de combattants temps élevé à 120, avec un prix d'inscription de 40 euros, et les disciplines disponibles seront typées entre individuels et équipes. En catégorie individuelle, nous aurons donc le semi-contact, le mid-guard et le subonique, c'est-à-dire manche plus lame de 125 cm maximum. Et nous aurons également, du côté des catégories par équipe, le semi-contact, le mid-grade et le multi-arm, qui compensera l'utilisation du double sabre laser. Info publique, son prix entrée n'est malheureusement non défini. Et en revanche, pour les cosplayers, ce sera gratos. Le bar et le restaurant seront sur place et de très nombreuses animations auront également lieu. Au programme, vous y trouverez également du rétro gaming, du VR, du cosplay, de l'escape game, des initiations au sabre laser, de l'expo photo et bien plus encore. Et enfin, le Nice Fiction 2019 est un festival bénévole et collaboratif dédié au genre de l'imaginaire, science-fiction, fantasy et fantastique, à travers tous les supports, littérature, arts plastiques, jeux et sciences. La 5e édition se tiendra du 7 au 9 juin 2019 au Festival de Nice. C'est 3 jours de rencontres, d'animations et de jeux, de conférences et d'émotions. Nice, 5e ville de France, ville largement ouverte au tourisme, mais ancrée dans l'histoire et dans l'imaginaire, accueillera à cette période son Festival de l'imaginaire, à travers tout support via la création et l'art. Littérature et bande dessinée, cinéma, séries télé, web-séries et youtubeurs, peinture et illustration avec des expositions sur plusieurs semaines, jeux de société, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux vidéo, etc. Et théâtre et contes. L'entrée est gratuite et vivement recommandée à tous, enfants, familles, érudits et curieux, vénérables et chenapans, avec des tables rondes, des conférences sur maintes sujets passionnants, rappelant à quel point l'imaginaire se mêle aux enjeux du présent et des éclairs. Écologie urbaine, féminisme, pédagogie et bien d'autres. Mais également des rencontres avec les auteurs, des expositions d'illustrations de figurines, des contes pour petits et grands, des tournois, un match d'écriture, de dédicaces, des projections de films et bien d'autres surprises encore. Comme la soirée Saturday Gaming Night, où vous pourriez jouer jusqu'à l'aube, visiter d'autres mondes, lancer des dés et des idées, rêver au-delà du réel et revenir sur les yeux pleins d'étoiles et de rêves. C'est donc ainsi que s'achève notre émission du mois de mai. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Fréquence Geek. Tchuss!
Vous venez d'écouter l'émission Fréquence Geek présentée par Bastien sur RTVFM.